Arrivons maintenant au chapitre 8, et nous allons lire les versets 1 à 6. Chapitre 8, versets 1 à 6. Et quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Voilà, nous allons voir déjà ce commencement du chapitre 8. Nous sommes toujours, voyez, n'est-ce pas, dans ce cadre du trône. Il y a le trône, la mer de cristal, n'est-ce pas, tout se passe en somme là, n'est-ce pas, là. L'ouverture du septième sceau impose d'abord un silence d'une demi-heure. C'est Jean qui a vu ça, lui, je sais pas s'il avait une montre, mais il lui a été donné, vous savez, il avait une telle puissance d'esprit en lui que vous pouvez tout voir. Mais on voit par là ce détail qu'il rapporte toute chose quand même à la vie humaine, hein, aux conditions de la vie humaine, vous voyez. Il n'est pas dans un autre monde. Il voit le monde invisible. Mais lui, il appartient toujours. Et il faut cela pour qu'il soit, en somme, notre commissaire, celui qui va nous rapporter ce qu'il a vu. Parce que si, vraiment, il nous parlait d'un langage d'ange et les conditions de vie des anges, ça ne nous donnerait rien du tout. Pas le livre de l'Apocalypse, alors là, serait complètement hermétique. Mais tandis que là, n'est-ce pas, c'est bien un homme qui est resté dans les conditions de vie humaine, il est resté conditionné humainement, d'une façon même, on dirait, peut-être terrestre, et il voit les choses du domaine invisible. Alors, l'action est suspendue pendant cette demi-heure, et on va entrer dans de sévères avertissements. Ça va devenir sévère, rigoureux, terrible même. Les sept anges qui sont là reçoivent sept trompettes. En Israël, les trompettes étaient des instruments sacrés et qui étaient destinés à ouvrir les services religieux. Quand il y avait un service dans le cadre du sacerdoce lévitique, eh bien, on sonnait de la trompette, du chauffard. On sonnait de la trompette. Donc, les trompettes ici que nous avons dans l'Apocalypse sont donc des avertissements. Des avertissements. Les sceaux au travers des temps de l'Église, des siècles de l'Église, ont déroulé les différents événements, n'est-ce pas? Ils ont déroulé même très vite au début, n'est-ce pas? Il y a eu des guerres, il y a eu ensuite des tremblements de terre, ensuite en même temps, des tremblements de terre, il y a eu des maladies contagieuses, des soulèvements, il y a eu tout ce que le Seigneur avait annoncé lui-même, tout cela s'est produit, ça se produit encore maintenant, nous sommes encore là dans le temps où ça se produit, mais les trompettes vont quand même sonner avant l'épuisement, si je puis dire, de l'ensemble des événements déterminés par les sept sceaux. Voyez-vous, les sept sceaux déterminent des événements qui vont à la fin s'amplifier et qui vont entrer dans le programme des trompettes, puis des coupes, mais les sept sceaux vont jusqu'à la fin. Si j'avais un tableau noir, je vous représenterais, n'est-ce pas, le déroulement des événements des sept sceaux, allant jusqu'à la fin, jusqu'à ce terrible tremblement de terre de la fin, et puis les trompettes qui interviennent quand même sur le parcours des événements des sept sceaux. Alors quelqu'un me disait hier, je n'ai pas peut-être répondu tout à fait comme il le désirait, il m'a dit, est-ce que nous sommes dans les trompettes? Alors je lui ai dit, non, cette grêle mêlée de sang, nous ne la voyons pas. Cependant, il n'est peut-être pas exclu la première trompette ait déjà sonné. Elle n'est pas exclue. Enfin, nous ne pouvons pas nous prononcer peut-être en ce moment, n'avons pas suffisamment mûri peut-être ces choses, parce que l'Apocalypse n'est pas tout de l'étudier, il faut la mûrir. Il faut la mûrir dans le courant de notre vie chrétienne. Alors nous n'avons peut-être pas suffisamment mûri, pas suffisamment réfléchi, nous n'avons peut-être pas suffisamment prié. C'est ce qui nous montre qu'il faut avoir une vie de prière pour que le Seigneur vraiment nous fasse entendre ce qui doit se passer, n'est-ce pas? Si on prend ces choses à la légère, eh bien nous n'entendrons jamais de trompette. Seulement un beau jour, nous serons en face du grand événement. Hein? Et alors, là, attention, l'un sera pris, l'autre laissé. Pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. L'un sera pris, l'autre laissé. Alors, donc, nous voyons que les sept anges se préparent à sonner de la trompette pour annoncer. Donc, les trompettes annoncent les événements, les derniers événements de la fin. Ce sont des avertissements. Il y a d'ailleurs maintenant dans l'Apocalypse un luxe extraordinaire d'avertissements. Dieu avertit, nous verrons de différentes manières, Dieu avertit. Et je pense que nous sommes déjà avertis, nous. Sommes avertis, Dieu nous avertit, attention, il y a cette séduction, cette tentation qui s'étend sur le monde entier. Il y a cette iniquité qui grandit d'une façon épouvantable. Il y a cette masse humaine qui se livre d'une façon éhontée à la corruption. Hein? Si nous parlions par exemple du sida, je crois que le sida aujourd'hui, c'est un avertissement colossal, terrible, et qui montre qu'elle est le cœur des hommes d'aujourd'hui. Hein, il y a un médecin, un professeur là, et qui s'occupe précisément de recherche dans le cadre du sida, et qui a fait une déclaration. À un certain moment, il a dit, il y a un moyen d'arrêter l'épidémie. C'est de revenir à un comportement moral, normal. Il voulait dire, n'est-ce pas, moral chrétien, cet homme-là devait être convaincu que la morale chrétienne, bien qu'on la rejette, elle est toujours là. Hein, les prescriptions de l'Évangile, nous savons que il ne doit pas y avoir de relation entre hommes et femmes en dehors du mariage. Bon, alors, il a dit qu'on revienne à ça. Mais, ça a été publié évidemment par les médias, et ça a soulevé des protestations. Oh là 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 là, tout le monde a protesté. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce professeur-là, est-ce qu'il fait de la médecine, lui? On lui demande de faire de la médecine, il fait de la morale. Alors, maintenant, les gens veulent qu'on fasse de la médecine, c'est-à-dire, ça signifie ceci. Trouvez-nous un vaccin, trouvez-nous quelque chose, un médicament qui puisse, n'est-ce pas, nous guérir de ça et même nous préserver du SIDA, mais qu'on reste quand même, n'est-ce pas, dans cette licence, dans cette permissivité, dans ce déploiement d'iniquité, de corruption, n'est-ce pas, qui est maintenant, qui a gagné la société et qui devient admis, ça devient admis partout. Alors laissez-nous ça, n'est-ce pas, ça n'est pas question de revenir là-dessus. Guérissez-nous. Hein. Vous voyez, n'est-ce pas, le cœur humain, ce qu'il est, attaché à la corruption, c'est le cœur qui est corrompu lui-même, c'est le cœur. Alors, cela nous montre bien qu'il y a des avertissements. Le sida est un avertissement. Et je dis que dans l'Église évangélique, on a parlé avec légèreté de ça. On s'est laissé entraîner par des avis qui étaient pernicieux. Même dans l'Église évangélique, j'ai noté ça. J'ai dit tout de même, on n'a pas le courage d'avoir un avis honnête. Parce que le sida est un avertissement de Dieu. C'est un avertissement de Dieu, c'est pas douteux. Il y aura des pestes, des maladies contagieuses, dit l'Écriture. Alors j'ai lu dans une presse évangélique de chez nous, j'ai lu oui, bien sûr, il ne fallait pas alerter les gens, ceux qui ont le sida ou qui peut-être l'auront, n'est-ce pas? Eh bien, alors, faut pas être méchant avec eux, hein, il faut au contraire les cajoler, et puis, alors, il faut les rassurer, il faut être charitable, voyez-vous, être très charitable, n'est-ce pas? Bon, et puis, alors, et puis après tout, concluait l'article, bon, après tout, vous savez, le Seigneur Jésus est là pour guérir même le sida, n'est-ce pas? Mais oui, alors, livrez-vous à n'importe quoi, ayez le sida, le Seigneur Jésus va vous guérir, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du blasphème! C'est du blasphème, et ça a figuré dans nos écrits. Mais enfin, je suis révolté, moi, de choses comme ça. Enfin, si vous l'êtes pas. Révolté de cela. C'est révoltant, cela. Il faut dire, le sida provient de l'iniquité. C'est un produit de l'iniquité. Et ce qu'il faut dire à ceux qui ont le sida, bien sûr, venez au Seigneur. Ah, la première des choses, vous êtes séropositif, dit-on. Enfin, pas toujours sûr, mais enfin, vous l'êtes, mettons, on vous l'a dit, on vous l'a déclaré. Vous êtes séropositif. Bon, comment avez-vous vécu? Vous le savez. Il y a une jeune personne qui est journaliste. Une journaliste avec toute la formation et puis la superbe que ça donne, n'est-ce pas? Alors une jeune journaliste heureuse d'être entrée dans cette profession où on peut voyager, aller, venir et faire un tas de choses. Et puis, elle a eu le sida. Elle a le sida. Elle est séropositive, elle s'est fait examiner plusieurs fois, bon, c'est flagrant pour elle. Alors, elle a écrit un livre. Dans ce livre, ce livre, je crois, est intitulé « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Alors, elle se révolte contre Dieu. Ah, non, Dieu n'aurait pas dû laisser faire ça. Pas possible. Se révolte contre Dieu. Elle n'a pas compris, elle ne reçoit pas l'avertissement qui se trouve là. Si, tout de même, un peu, parce que elle dit ceci, n'est-ce pas, évidemment, j'ai mené une vie de patachon, mettons. J'ai mené une vie dissolue. Ah, ça c'est vrai. Bon, ça, c'est, je le cache pas. Ah oui. Alors, c'est... ce qu'il faudrait, c'est qu'elle aille plus loin. C'est en raison de cette vie qui a offensé Dieu, n'est-ce pas? Je vais offenser Dieu sans me soucier de la chose, n'est-ce pas? Oh, je l'ai fait avec toute ma la liberté que l'homme revendique maintenant. Bon, j'ai fait ce que j'ai voulu. Ben, tu as fait ce que tu as voulu et tu récoltes aussi ce que tu ne voulais pas. Tu récoltes quelque chose. C'est une récolte. Bon, et alors, là, n'est-ce pas, elle reconnaît la chose. Mais ce qu'il faut, c'est si nous jamais nous avons affaire à quelqu'un qui s'alarme parce que il est séropositif, eh bien, c'est probablement que sa vie a permis que cela vienne, n'est-ce pas, n'est pas nécessairement accidentel. Je sais bien qu'il y a des bébés qui peuvent hériter ça de leur maman, mais mettons une personne, n'est-ce pas, qui ait été atteinte de cette maladie, bon, ben, c'est que sa vie a offert l'occasion à la maladie de la toucher. Alors, ce qu'il faut lui dire, mais venez au Seigneur Jésus, d'abord, c'est ça. Et je n'ai pas trouvé ça dans l'écrit, dans nos écrits. Je n'ai pas trouvé ça, non. Il faut être charitable à l'égard de cette personne. Ça. Mais non, il faut l'amener à Jésus. Il faut lui dire, certes, vous étiez dans le péché. Vous avez vécu dans le péché. Reconnaissez-le. Reconnaissez votre péché. Commencez par reconnaître cela. Tout le monde doit reconnaître, que ce soit pour sida ou autre chose, eh ben, c'est, tout le monde doit reconnaître son état de péché. Reconnaissez cela. Venez au Seigneur. Bon. Et puis, là, quand vous serez au Seigneur, eh bien, vous implorerez sa grâce. D'abord, vous mènerez une autre vie. Vous allez entrer dans une autre vie. Repentez-vous, a dit le Seigneur. Sans ça, vous mourrez tous. Et ça, on ne l'a pas cité dans l'écrit auquel je pense. On n'a pas cité ça. On n'a pas dit, le Seigneur a dit, repentez-vous, car vous périrez tous également. C'est ça qu'il fallait dire, n'est-ce pas? Alors, repens-toi, viens au Seigneur. Nous allons t'aider. Voilà la charité. Voilà la charité. Nous allons t'aider. Nous allons prier pour toi. Nous allons te lire l'Évangile. Nous allons te communiquer la flamme de notre foi. Voilà ce qu'il faut dire. Et étant venu au Seigneur, eh bien, là, le Seigneur te fera la grâce de te délivrer de cela. Parce que tu t'es repenti. Parce que tu as cru. Voilà la main. Mais c'est pas ce qu'on a dit. Alors ça m'a bouleversé, je l'assure, et ça m'a montré que vraiment la pensée chrétienne est détériorée. La pensée chrétienne n'est plus saine. Alors si je vous dis toutes ces choses, vous savez, c'est pas à titre de critique que je vous dis ça, parce que quand j'ai vu ça, j'ai été bouleversé. C'est un témoignage, si vous voulez, que je vous apporte là, n'est-ce pas? Alors, des avertissements. Nous sommes sur le compte des avertissements. Eh bien, des avertissements, Dieu va en délivrer, il en délivre déjà. Des avertissements. Et alors, l'ange qui avait l'encensoir, on peut dire que c'est une sorte d'officiant céleste, s'avance vers l'autel avec son encensoir d'or, et devant l'autel, devant Dieu, il offre des parfums, beaucoup de parfums. On lui donna des parfums à offrir. Il offre beaucoup de parfums avec les prières de tous les saints. Les prières de tous les saints sont un encens qui monte vers le Seigneur, un encens agréable. Nous l'avons déjà dit hier, hein, mais il faut le savoir, nos prières ne sont pas perdues. Nos prières, elles sont enregistrées. Il y a un ordinateur à prières dans le ciel, hein, et tout ça est logé dans la mémoire de cet ordinateur. Autrefois, on se demandait comment le Dieu aurait pu se souvenir, pourra se souvenir de toutes sortes de choses. Ben, quand on raisonne, arrive à ça. Ben, aujourd'hui, je dis à ceux qui raisonnent, je dis, ben, vous voyez, il y a des ordinateurs pour les hommes, et on loge là-dedans toutes sortes de choses, je sais pas, il y a une mémoire considérable. Bon, ben, le Seigneur, il a un grand ordinateur, dont la mémoire est infinie.
C'est vrai qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a bien de ces questions qui se trouvent résolues par cette instrumentation que les hommes se sont donnée. Bon, alors donc, ces prières sont là. Les prières qui sont montées de cœur ardent, sincère, de cœur aimant, sont montées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne priez jamais autrement qu'au nom de Jésus, n'est-ce pas ? Sont montées au nom de Jésus vers Dieu. Remarquez qu'ici, tout est offert à Dieu. Le Seigneur Jésus nous a dit de prier le Père en son nom. C'est bien, quelquefois, on parle à Jésus, bon, je ne veux pas m'insurger contre ça, mais la ligne qui nous est donnée de la prière, c'est une prière au nom de Jésus qui s'adresse à Dieu. Ça, s'adresse à Dieu le Père. Là, c'est à Dieu, c'est devant le trône qu'on offre ses prières. Alors, quand on fait de longues prières, Jésus, écoute, tu devrais ceci, cela, n'est-ce pas, je te demande, etc. Pourquoi faire des prières comme ça? Elles ne sont pas celles que Jésus nous a demandées. Vous prierez le Père en mon nom, et je vous exaucerai. Jésus peut nous exaucer, mais il demande qu'on prie le Père en son nom. Alors, il faut le faire. Et c'est ces prières qui, nous le disions hier, n'est-ce pas, manifestent de la part des saints de l'Église, les saints, les vrais saints qui savent prier, manifestent une volonté et qui rejoint celle de Dieu. Il y a longtemps que la volonté de Dieu, elle est établie, hein, est établie dans, selon son programme, selon ses desseins, n'est-ce pas ? Bon, mais alors, la volonté, n'est-ce pas, de ceux qui prient, rejoint celle de Dieu, n'est-ce pas ? Et ça fait un faisceau, là. Et Dieu veut, attend que des prières rejoignent sa volonté. Et alors là, ça y est, l'exaucement vient. Et les prières, donc, des saints disposent de valeur et de force. Mais ces prières ne peuvent pas retenir le jugement de Dieu. Ne croyons pas que nous allons retenir le jugement de Dieu. Au contraire, nous allons hâter les choses. Nous allons hâter la venue du règne du Seigneur et par conséquent, nous allons hâter l'accomplissement des choses dernières. Hein. Mais nous n'allons pas retenir, il ne s'agit pas de retenir le jugement de Dieu, puisqu'il faut que ce jugement intervienne pour que le temps de la justice, de la paix, le temps vraiment de l'éternité que Dieu prépare, vienne. Le jugement, tant que le jugement n'est pas venu, nous l'avons déjà dit, il est impossible que le temps de grâce intervienne. Après quoi, l'ange qui a cet encensoir, qui avait servi donc à présenter les prières des saints, l'ange va chercher du feu de l'autel, ça c'est une image aussi, il va chercher du feu, et il remplit son encensoir du feu de l'autel. Et l'encensoir avec le feu, il jette ça sur la terre. Vous voyez la différence du geste. Avec cet encensoir, il vient d'abord présenter les prières, les parfums, les prières à Dieu, et puis après ça, il prend le feu de l'autel, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ce qui va déterminer les jugements. Alors il prend ce feu, il le met dans l'encensoir et il jette ça sur la terre. Alors, sur la terre, donc, arrivent les premiers signes de la colère de Dieu. La colère de Dieu va se manifester sur la terre. Et c'est alors, après cela, après ce que Jean voit ainsi, c'est alors seulement que les sept anges vont se préparer à sonner de leurs trompettes. Vous voyez, avant que les trompettes ne sonnent, il fallait cela. Il fallait les prières des saints et il fallait que l'encensoir avec le feu du ciel, déterminant les signes de la colère de Dieu, fût jeté sur la terre. Alors les trompettes qui font penser aux trompettes, nous avons dit tout à l'heure, qui annonçaient les services religieux, si on peut les appeler ainsi. Les trompettes nous font penser aussi à autre chose. Elles nous font penser aux trompettes sacerdotales, les trompettes que les sacrificateurs, plus exactement, avaient lorsque le peuple d'Israël eut à faire le tour des murs de Jéricho. Ces trompettes, donc, sonnèrent pendant 6 jours. Les sacrificateurs, là, en tête, sonnaient de la trompette, tout en faisant 7 fois le tour des murs, et c'est ainsi que le 7e jour, ils firent crouler les murailles de Jéricho. Les murailles de Jéricho, vous voyez, il n'y a pas eu de canon, hein, on n'a pas utilisé de moyens humains, hein, mais les murs de Jéricho, ils sont tombés vers le dehors, ils sont tombés, voilà. Et l'accès a été donné à la ville, en sonnant des trompettes. Et les 7 trompettes que nous avons dans l'Apocalypse vont faire un travail similaire à celui des trompettes sacerdotales du temps de Josué. Un travail similaire. Les trompettes vont sonner et des choses vont se produire. Nous allons lire maintenant au verset 7. Verset 7 jusqu'à la fin du chapitre. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Alors voyons déjà, là, ces 4 trompettes, et cet aigle qui vole pour annoncer les dernières trompettes, les 3 dernières. 4 trompettes vont donc retentir l'une après l'autre et déterminer les destructions sur la terre. L'encensoir a été jeté avec le feu du ciel, ce sont des destructions, c'est la colère de Dieu. Des destructions qui sont d'ordre écologique. Les écologistes vont frémir. D'ordre écologique, dans la proportion d'un tiers partout. Remarquons que avec les sceaux, la mortalité était dans la proportion d'un quart. Ici, nous arrivons au tiers. Dans la proportion d'un tiers. Et successivement, les destructions écologiques vont d'abord intéresser la terre, la mer, les fleuves, et la lumière solaire. Hein? La terre, la mer, les fleuves, la lumière solaire. En somme, tout ce qui constitue l'essentiel du cadre de vie des hommes. Hein? Voyez, le cadre de vie des hommes est affecté dans la proportion d'un tiers affecté par des destructions totales. Le tiers va subir une destruction totale. La première trompette, c'est, avons-nous dit, de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Grêle mêlée et feu mêlé de sang. Cela nous fait penser évidemment aux plaies d'Égypte. Il y a une plaie qui s'apparente avec celle-ci au chapitre 9 de l'Exode. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, nous pensons à ce passé. Il y a eu quand même des plaies et qui ont affecté aussi la terre et le cadre de vie des hommes. La troisième partie, le tiers, la troisième partie du sol, des arbres et même de l'herbe, c'est-à-dire de la petite végétation, sont brûlés. Littéralement brûlé. Ça, je ne pense pas que nous puissions dire que nous l'ayons vu, n'est-ce pas? Mais voilà ce que fera cette première trompette. Puis, le sang, mêlé de sang, ça c'est quelque chose qui nous semble curieux, n'est-ce pas? C'est que dans cette destruction interviennent du sang, reprenons les termes, de la grêle et du feu mêlés de sang. Et cela a une signification. Nous sommes là, n'est-ce pas, dans un langage symbolique, c'est vrai, mais il y a quand même, derrière ce langage symbolique, des accomplissements effectifs. Hein. Alors, pouvons dire que le sang, ici, signifie quelque chose. Il signifie que le sang que les hommes ont versé sur la terre, les hommes ont versé beaucoup de sang, et ils ont versé du sang innocent, ou du sang d'hommes qui étaient ardents de foi pour Dieu, ont été persécutés, mis à mort, eh bien le sang que les hommes ont versé sur la terre injustement vient en jugement par le feu de la colère de Dieu. Voilà, je crois, le sens. C'est pourquoi quand je dis nous n'avons pas vu explicitement ce qui correspond à cette première trompette, peut-être le voyons-nous et l'avons-nous déjà vu d'une autre manière sans que nous l'ayons peut-être pleinement discerné. Mais nous avons tellement d'événements terribles et douloureux dans notre temps, hein, que nous ne savons plus très bien en faire l'analyse et y réfléchir. Et en tout cas, remarquez ceci, c'est que ces médias, et je suis bien d'accord avec ce frère-là qui n'est pas tendre à l'égard des médias. Moi, je ne suis pas non plus. Je pense que les médias font beaucoup de mal. Les journalistes qui sont si fiers de leur profession, et puis surtout, n'est-ce pas, qui maintiennent le principe haut, très haut, le principe selon lequel il ne faut pas toucher à la liberté d'expression, même si l'expression est une arme à tuer et à faire du mal, il ne faut pas toucher à la liberté d'expression, eh bien, ces journalistes sont des gens déformés. Ah, s'ils étaient là, s'il y en avait un là, ils ne seraient pas contents, hein. Ils sauteraient à la gorge. Mais c'est pourtant vrai. Souvent, quand j'écoute la radio, j'écoute la radio pour savoir les informations, savoir ce qui se passe, et que j'entends des réflexions de ces journalistes, je me dis, mais il ne peut pas penser, il ne peut pas dire autre chose, celui-là. Vraiment, n'est-ce pas? Pourquoi? Il jette de l'huile sur le feu. Il va chercher ce qui est mauvais. Il excite le mauvais. Hein. Nous les voyons souvent dans ce rôle-là. Hein. Eh oui, eh bien, alors les médias, pour en revenir à ce que j'entendais dire, les médias nous signalent bien des catastrophes, des malheurs, des accidents, toutes sortes de choses. Mais il passe très vite. On va nous parler longuement d'une histoire d'un chanteur, d'une chanteuse, d'un écrivain ou de quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Mais sur ces choses-là, on va passer très vite. On passe très vite, très vite. C'est quelque chose qui est à remarquer parce que il y a là une désinformation. Il y a là une œuvre de désinformation, c'est-à-dire quelque chose qui informe non seulement incomplètement et mal, mais qui volontairement dénature ce que devrait être la véritable information. Elle est dénaturée, elle est voilée. Hein? Et alors tout cela conditionne l'opinion de la Terre. Alors dire que l'expression est libre, c'est un mensonge. Un des grands mensonges de Satan. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas moi seul qui le dis, mais il y a dans des ouvrages, tout de même, des journalistes qui l'ont écrit, cela, n'est-ce pas ? Qui l'ont bel et bien écrit en disant « Les médias font de la désinformation ». D'abord, il y a une préparation, une trituration, n'est-ce pas, de l'information. Je sais bien qu'aujourd'hui, on manipule l'information. Il y a des manipulations, et alors, il faut répondre, donner raison à certains impératifs, n'est-ce pas, qui se font entendre dans la coulisse, et puis, il y a toutes sortes d'autres raisons qui font, n'est-ce pas, que l'information, en réalité, n'est pas loyale. Elle n'est pas loyale du tout. Alors, beaucoup d'événements sur lesquels le monde pourrait réfléchir, et nous aussi, eh bien, ne nous sont pas connus, ou sont connus si rapidement que ça passe, n'est-ce pas ? J'en ai noté un certain nombre, je ne vais pas vous le dire comme ça, d'événements qui étaient considérables et sur lesquels les médias ont passé très vite. Et alors la réflexion ne se fait pas. Alors je dis, n'est-ce pas, je ne sais pas, ou vraiment, on ne peut pas fixer actuellement tout à fait le point où nous en sommes des avertissements de Dieu. Et puis, alors, la seconde trompette, c'est une masse en feu qui tombe dans la mer. Et le tiers des eaux de la mer devient du sang cadavéreux. Le tiers des êtres vivants dans la mer, le tiers des navires sont frappés de mort. C'est quelque chose, évidemment, de grave, de sang cadavéreux, voyez-vous. Dans ce symbole, voyons d'abord le symbole, n'est-ce pas, et nous avons du mal à faire correspondre à ce symbole les réalités visibles, sensibles, que nous devons tout de même voir, que nous verrons si nous sommes des gens de foi. Parce que le monde, lui, il subit et il ne comprend rien. Il subit sans comprendre. Il proteste, enfin ça, évidemment, il accusera Dieu, il blasphémera Dieu, mais il ne comprend rien. Mais nous devrions comprendre. Et si nous sommes une église vraiment sainte, une église ardente, consacrée, nous comprendrons. Si nous ne sommes pas consacrés, nous serons peut-être église, mais nous ne comprendrons pas non plus. Nous ne comprendrons qu'en raison de notre consécration. En raison de notre ouverture à l'Esprit du Seigneur. Et nous n'avons d'ouverture à l'Esprit du Seigneur que si nous sommes consacrés. Alors, là, c'est quelque chose de terrible. Le Dieu, en somme, nous montre, il va répondre par le sang. Ah, vous avez répandu du sang. Et vous savez combien Dieu était jaloux du sang. Il ne voulait pas qu'on verse le sang. Le sang, c'est la vie. La vie est dans le sang. Dieu ne veut pas qu'on répande le sang. Et cependant, n'est-ce pas, les hommes n'ont fait que cela. Ils continuent à ne faire que cela. Eh bien, le Seigneur leur en donne du sang cadavéreux. Nous arrivons à la troisième trompette. Ce sont les eaux des fleuves et des sources qui, elles, sont atteintes par une sorte d'énorme météorite en ignition. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Alors je dis, c'est une sorte d'énorme météorite qui est en feu, en ignition. Et les eaux des fleuves et des sources deviennent amères, c'est-à-dire nocives. Il faut comprendre ici, c'est pas seulement de l'amertume au goût, c'est de la nocivité. Elles deviennent nocives et provoquent la mort de beaucoup d'hommes. La mort. Alors, cette énorme météorite en ignition, il y a des gens très avisés, très au courant des choses de l'actualité, et qui vont nous dire, mais c'est très simple, moi je vais vous dire ce que c'est. C'est une bombe atomique qui tombe dans l'eau, n'est-ce pas? Une bombe atomique. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur ce genre d'explication de l'Apocalypse, ou tout au moins des fléaux de l'Apocalypse, les moyens actuels qui nous sont connus, et notamment la puissance atomique. Vous savez, ici, n'est-ce pas, ce sont des anges. Il y a un ange qui a jeté l'encensoir avec le feu du ciel sur la terre. C'est la colère de Dieu. Ce sont des événements déterminés selon la colère de Dieu, par la colère de Dieu. Et est-ce que Dieu laisse le soin aux hommes d'accomplir eux-mêmes ce qu'il a inscrit prophétiquement sur le livre, le rouleau qui était tenu dans la main de Dieu? Je ne le pense pas. Dieu sait bien, lui, accomplir ses œuvres lui-même. Et il faut qu'il y ait des malheurs. Le temps est arrivé où Dieu va déterminer des malheurs. Des malheurs. N'oublions pas que dans le Deutéronome, il y a, au chapitre 28, il y a les bénédictions qui occupe un certain nombre de versets, et les malédictions qui en occupent beaucoup d'autres. Et alors, dans les malédictions, il y a toutes sortes de malheurs, et Dieu prévient, n'est-ce pas, que concernant ceux de son peuple qui se détourneront de l'obéissance, eh bien, tous ces malheurs viendront sur eux. Ce sont des malheurs que Dieu prévoit à l'avance et qui sont déterminés par le fait de la désobéissance du peuple, la résistance du peuple aux instructions de son Dieu. Donc là, moi, je penche surtout pour un accomplissement surnaturel. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher la bombe atomique. Nous avons la quatrième trompette. La quatrième trompette, c'est celle qui va éteindre partiellement la lumière, un tiers. Un tiers. La quatrième trompette, le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, le tiers en fut obscurci. Et le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. La lumière donc solaire s'affaiblit. Celle du midi, la lumière de midi, va devenir comme celle de 5 heures de l'après-midi, hein, à peu près, voilà. Et celle de 5 heures de l'après-midi, alors, va devenir comme une nuit. Les nuits elles-mêmes vont être rendues ténébreuses. Dans les plaies d'Égypte aussi, il y a cela, le Seigneur fait venir les ténèbres sur le pays d'Égypte. Et les ténèbres conviennent très bien au royaume de l'Antichrist. Dieu a le pouvoir de retirer en partie, là ici c'est dans la proportion du tiers, en partie ses bienfaits. C'est ce que Dieu fait là. Il retire ses bienfaits, en partie. Ah, vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas de ma grâce, vous ne voulez pas me connaître, vous ne voulez pas que je sois votre Dieu, le dispensateur. de toutes les choses qui conditionnent votre vie. Vous ne voulez pas. Bon, ben écoutez, alors je les retire un peu, vous allez voir ce qui se passe. Et là, les hommes voient ce qui se passe. Voient ce qui se passe quand Dieu se retire, et se retire pour un tiers. Hein. Alors voilà ce qui se passe. Et tout le monde meurt. Si bien que, n'est-ce pas, il y a là la leçon essentielle, formidable, c'est que nous vivons de toutes les manières, c'est-à-dire esprit, âme et corps, hein, nous vivons sur cette terre par la grâce que Dieu nous fait, de nous donner ce qui nous convient, ce qui nous est nécessaire, de nous le dispenser. Hein. Aujourd'hui, on ne croit plus, même dans l'Église. On ne croit plus à ce qu'on appelait précédemment la providence, c'est-à-dire les dispensations de Dieu, des bienfaits de Dieu. Mais pourtant, c'est vrai, ici, vous voyez, l'Apocalypse nous remet au devant de ces choses. Ah, je vais vous retirer un tiers. Vous allez voir qui va arriver. Vous allez voir. Hein. Ça, ce que vous aviez, n'est-ce pas, vous ne l'avez pas attribué à Dieu, vous n'avez pas glorifié Dieu. Comme dit le chapitre premier des Romains, vous n'avez pas voulu glorifier Dieu, vous n'avez pas voulu reconnaître Dieu et glorifier Dieu. Bon, eh bien, je retire un petit peu, et voilà ce qui se passe. Voilà le sens, n'est-ce pas, que nous devons trouver à ces choses. Et puis, enfin, après la quatrième trompette, je regardais, j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. » Voilà un aigle qui parle. Et pourquoi un aigle? Vous allez voir, la chose est d'une simplicité, je dirais presque enfantine. Vous avez quelquefois entendu un aigle? Mais non, parce que vous vivez, vous êtes des citadins. Nous sommes tous des citadins, n'est-ce pas? Nous habitons à Cannes, ou nous habitons à Montpellier, ou nous habitons... Alors là, n'est-ce pas, on est dans des maisons de ciment armé, hein, et on aperçoit un peu le soleil, n'est-ce pas? Mais on ne connaît plus la nature. On ne connaît plus la nature. Et si on demandait ça à quelqu'un qui vit en pleine nature, il vous dirait l'aigle. Oh, ben j'en ai entendu plus d'une fois, moi, des aigles. Et comment ça quel est le cri de l'aigle? Le cri de l'aigle, c'est « ouais, ouais, ouais ». Voilà le cri de l'aigle. Ah, moi, j'ai entendu. Ah. « Ouais, ouais, ouais ». Et vous savez ce que ça veut dire, « ouais » en grec? Ça veut dire « malheur ». Ça veut dire malheur. Voilà, tout simplement, n'est-ce pas, ce que contient notre verset 13, un aigle disant d'une voix forte, en effet, il dit, il peut pas dire autre chose, il dit toujours que ça, n'est-ce pas? Mais là, il passe à ce moment-là, ouais, 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 et regardez dans un lexique, en grec, la traduction de malheur, vous verrez, n'est-ce pas, ouais. Ça se transcrit en français O-U-A-I, ouais. Voilà pourquoi il y a un aigle qui vient annoncer trois malheurs, parce que c'est la seule chose qu'il puisse annoncer avec le cri qui lui est spécifique.